Il est 13h à Bangui, nous vous invitons à suivre la grande édition de la mi-journée avec Eda Lotindiko. Bonjour Eda.
Bonjour Ursula Merveille Mevala, bonjour à toutes et à tous. La ville de Bambouti, toujours en proie à l'insécurité. Il y a 3 jours, des combats ont opposé des éléments de l'UPC appuyés par un groupe venu du Soudan du Sud aux éléments de la milice Azande Anik Bigbe. Même si le calme est revenu, la peur gagne encore les habitants. Inquiétude également aux alentours de Ngaoundaï dans l'Impende, à l'origine le vol de bétail des éleveurs. La population craignant des représailles est obligée de se déplacer. Dégradation des routes à l'intérieur du pays, une préoccupation du chef de l'État. Faustin Archange Touadéra promet d'apporter des solutions aux problèmes. Engagement exprimé à l'occasion de l'an 2 de son second quinquennat. Football, les Fauves de moins de 16 ans perdu hier leur premier match du tournoi mondial de Montaigu en France. Défaite 2-0 face à la Belgique. Réaction du capitaine et l'entraîneur centrafricain dans la page sport.
Ouvrons ce journal à Bambouti dans le Mbomou, le climat sécuritaire reste une inquiétude.
Oui, il y a 3 jours, des combats ont opposé la milice locale Azande Anik Bigbe à des éléments de l'UPC appuyés par un groupe des combattants venus du Soudan du Sud. Le bilan exact n'est pas encore connu, mais le député de Bambouti, Jean-Bernard Aniwe Bisigui, ici à Bangui, parle de près d'une dizaine de morts. Il a été joint par Parfait Edi Komessé.
Selon les informations que je possède, l'UPC est parti encore acheter d'autres personnes de l'autre côté vers le Sud-Soudan. Ils sont venus au nombre de 40 et ils ont été mis en déroute par ces jeunes 2 fois dans une même journée. On les appelle les balais. Ils sont même à Obo. La fois passée, ils se sont battus avec l'armée sud-soudanaise. Ils ont fui, ils sont maintenant à Obo. Une partie qui est restée là-bas, c'est eux maintenant que l'UPC utilise pour attaquer la RCA de ce côté. On nous laisse dire qu'après ce combat, il y a eu 7 ou 8 morts. Sur place, du côté de l'UPC et leurs alliés qu'ils ont amenés du Sud-Soudan là-bas. Ce n'est pas compliqué. Il y a les FAKA qui sont positionnés à Obo. Il suffit que le gouvernement demande au chef de détachement là-bas de faire partir un détachement de 15 ou 20 personnes à Bambouti pour rapidement la paix va revenir. Parce que c'est entre eux, il y a deux belligérants, il y a l'UPC et Anik Bigbe qui se bat. Vraiment, il n'y aura pas de la paix. À partir de ce moment-là, la population ne peut même pas revenir.
La milice locale Azande Anik Bigbe, créée il y a 1 mois, se fixe pour objectif la libération du Mbomou occupé par les éléments armés de l'UPC. Depuis quelques jours, cette milice a mis en déroute la rébellion de l'UPC présente à Bambouti. Pour l'instant, même si l'attaque de l'UPC a été repoussée, la peur gagne encore les habitants craignant un probable retour de ce groupe armé.
Restons toujours en région Eda, cette fois dans le sens opposé. Dans le nord-ouest, la situation sécuritaire reste inquiétante à la périphérie de Ngaoundaï.
Les habitants des villages Touloulou et Kohon, dans la commune de Yémé, à 30 km de Ngaoundaï, ont fouillé depuis près de 3 semaines leur localité. Ils trouvent refuge ailleurs pour échapper aux représailles des éleveurs armés, victimes de vol de leur bétail. Entre-temps, un chef de groupe dans le village Ndanga, à 14 km de Ngaoundaï, a été enlevé samedi dernier par des hommes armés. Témoignage du sous-préfet de Ngaoundaï, Jean-Ulrich Simbekpanga, joint hier par Parfait Edi Komessé.
Ça fait 2 semaines et 3e semaine qu'ils viennent d'arriver. Les enfants de la commune de Yémé, ils sont allés dans la brousse là-bas des kilomètres pour attaquer les bergers. Ils ont tué 3 personnes. Une personne, ils ont récupéré. Le 4e a pris les 2 pour ramener jusqu'à dans le village de Kohon. Ils ont tué celui qui accompagnait le troupeau. Présentement, les gens du village de Touloulou et Kohon, ils sont en débalance. Ils se trouvent présentement en exil. Ils sont au nombre de 11 qui ont fait cette dégâts. Ils sont tenus militaires avec des armes militaires. Et présentement, les gens sont en débandade. Donc, la justice pour nous envoyer le mandat d'arrestation de ces gens-là. Parce que la population est du souffle pour rien. Et c'est hier, environ de 21 à 22 heures, 40 personnes qui sont venues de la poste, ils ont mis la main sur un chef de groupe du village de Douga. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas. J'ai parlé sur les ondes en disant que le gouvernement centrafricain camerounais doit trouver une solution le plus rapide à la zone de Mbaimbou. Parce que Mbaimbou, il y a différents groupes armés. Il y a le Ndjantawit, il y a le Pereka, il y a les Touazé qui se trouvent là-bas.
De Ngaoundaï, dans l'Impende, nous sommes à présent dans la ville d'Alindao, dans la Basse-Koto. Après presque 10 ans de dysfonctionnement, les activités judiciaires ont repris cette semaine.
Cette reprise est marquée par l'audience de prestation de serment des officiers d'état civil de la mairie d'Alindao. Le palais de justice d'Alindao a été vandalisé lors de la crise sécuritaire qui a frappé la localité. Cette relance d'activités judiciaires sans maison d'arrêt dans la ville redonne espoir à la population en quête de la justice. Flavien Josapha Zodimo, notre correspondant à Alindao, nous fait le point.
Pour cette première audience civile, 20 dossiers, notamment de revendications immobilières, violences faites aux femmes, pensions alimentaires ont été traités. Les usagers de justice saluent cette reprise d'audience publique, gage du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales à Alindao. Deo Gratias Baré, l'un des plaignants.
Nous sommes contents de cette reprise des activités judiciaires à Alindao, car nous avons besoin de justice pour traiter de nombreux problèmes dans la localité.
À défaut du palais de justice, le corps judiciaire utilise une pièce de la mairie d'Alindao comme salle d'audience. Les juges affectés dans la région n'ont même pas de mobilier et fourniture de bureau. Franck Fernand Kereyim, procureur près du tribunal de grande instance d'Alindao.
Je crois aujourd'hui également, l'audience civile continue toujours. Et je voulais aussi, par la même occasion, vous rassurer que nous sommes en train de préparer des audiences correctionnelles, même si aujourd'hui nous n'avons pas de maison d'arrêt et de correction pour nous permettre, si le tribunal rentre en condamnation, que ces personnes condamnées soient envoyées dans cette maison de correction pour purger leur peine.
Aujourd'hui, les unités de justice telles que la police et la gendarmerie n'ont pas de bâtiment approprié pour un bon fonctionnement et se voient obligés d'emprunter aux particuliers de la ville de vieux bâtiments pour les activités.
Au niveau des unités de police judiciaire ici à Alindao, tous les bâtiments que ces unités utilisent sont des bâtiments des personnes privées que nous avons réquisitionnés pour ce besoin. Mais la crainte est que si aujourd'hui ces personnes se présentent pour revendiquer leur propriété, nous serons obligés de les restituer. Et c'est ça qui pose problème. Normalement, ces unités de police, la gendarmerie et le commissariat doivent être logés dans leur structure raisonnable pour leur permettre de bien travailler. On ne va pas quand même occuper la propriété des personnes privées. Ça, c'est le premier défi. Et vous voyez même, la structure ne cadre pas à la configuration normale d'une unité de police.
La ville d'Alindao compte environ 70 000 habitants, située presque à 500 km de Bangui. Les services de l'État sont en ruine à cause de multiples événements que la ville a connus. Flavien Josepha Zondimo, Alindao, Radio Ndekeluka.
Dans la suite de l'actualité de ce lundi, le président de la République, Faustin Akanji Touadéra, promet d'apporter une solution au problème de la dégradation des routes à l'intérieur du pays.
Il l'a dit lors de son adresse à la nation à l'occasion de l'an 2 de son second quinquennat. Faustin Akanji Touadéra s'est réjoui de fin d'études de faisabilité de quelques voies fluviales et routières. Il a par ailleurs annoncé la réhabilitation de certains axes sans donner une date précise sur le démarrage des travaux. Écoutons l'extrait de son discours recueilli par François Koussimi Palatou.
Je me réjouis de fin des études du pont sur Lubangi, ainsi que de celle des routes Sibut-Grimari-Bambari, Sibut-Dekwa-Kakabandoro, Baoro-Karno-Bamboula, Bosembele-Baoro et Mbaiki-Boda-Yaloke. En ce qui concerne le corridor 13, les travaux techniques des deux lots, à savoir Gouga-Bogasamba, avec un pont de 380 mètres sur la Lobaye et Bosamba-Mbaiki, seront bientôt lancés. Dans le cadre de la coopération avec la Banque africaine de développement. Nous avons en perspective le remplacement du bac de Buka-Batangafu par un pont et la réhabilitation des routes de Damara-Buka-Batangafu, Sibut-Bambari-Alindao-Kongo, Bambari-Ipi-Bria, Sibut-Kakabandoro et la poursuite de la réhabilitation de la route Ndele-Wada-Birao-Amdafa.
Les gouvernements centrafricains et allemands ont signé ce matin une convention de coopération sanitaire.
Objectif, améliorer le système de santé dans la région sanitaire de Lombela-Poko et de la Lobaye. Docteur Pierre Somsi, ministre de la Santé, donne plus de précisions au micro de Bolivis Massambaye.
La convention de coopération entre le gouvernement allemand et le ministère de la Santé pour la mise en œuvre de la deuxième phase de financement pour le renforcement du système de santé dans la région sanitaire numéro 1 de Bangui. Ce financement qui est de 15 millions d'euros vient s'ajouter à une première dotation de 11 millions d'euros et est un apport crucial qui va permettre d'améliorer donc le système de santé en termes d'infrastructures, en termes de qualité de service et surtout l'accès des populations à ces services. Dans la mesure, il va permettre d'améliorer donc l'infrastructure sanitaire dans les communes de la région sanitaire numéro 1, je veux dire Lombela-Mpoko, la Lobaye.
La suite de ce journal nous conduit dans la Nanagribizi, précisément au village Convi 2, à 48 km de Kagabandoro, où l'ex artisans continue d'être pratiquée malgré son interdiction par la loi.
Des femmes et filles âgées de 15 à 45 ans continuent d'en être victimes. Cette pratique traditionnelle qui consiste à enlever une partie de l'organe génital externe de la femme n'est pas dénoncée par des excisés. Notre correspondant Jean-Pierre Ngarasuma s'est rendu dans ce village.
Au village Convideu, dans la commune de Nanaouta, la pratique de l'excision se répand, mais en cachette. Beaucoup de femmes excisées ne veulent pas dénoncer cet acte coutumier jugé dangereux pour leur santé. Marguerite Malo, sage-femme à l'hôpital du district de Kagabandoro, montre les conséquences sociales sur la santé des excisés.
Les conséquences sont vraiment énormes. La première conséquence, c'est la mort de la fille qui a été excisée. Parce que quand on fait l'ablation du clitoris, il peut y avoir hémorragie et la mort peut s'en suivre. Et encore, la femme peut devenir stérile. La femme a la chance d'attraper des maladies comme le VIH, l'hépatite, la syphilis. Il peut y avoir la frigidité, en ce sens que la femme, quand elle tourne aux environs de 35 ans, elle ne peut plus avoir le plaisir de satisfaire ses besoins sexuels.
Justin Bourou, chef de village Convideu, met à garde les exciseuses.
Jusqu'à ce moment, le gouvernement a interdit l'excision des femmes. Nous, les chefs de village, on a donné décision. Mais si une femme qui a été passée par gauche que je n'ai pas vue, d'accord, mais si j'attendais ça là, je vais les arrêter. Donc je n'ai besoin pas que ça là ne fait pas maintenant à ce moment dans mon village.
En République centrafricaine, le code pénal condamne les coupables de mutilation de 2 à 10 ans de prison et une amende allant de 100 à 500 000. Selon les statistiques, 21% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi une quelconque forme de mutilation génitale féminine. La majorité des victimes sont à l'intérieur du pays. Jean-Pierre Ngarasuma, Kagabandoro, Radio Ndeke Luka.
La page sport de cette mi-journée, c'est avec vous, Claire Assambadenga. Claire, bonjour.
Bonjour, Eda Lotindiko. Bonjour à tous.
Football, les matchs de la 50e édition du tournoi mondial de Montaigu en France se poursuivent.
Oui, Eda, hier, les Centrafricains de moins de 16 ont été battus par les Belges sur le score de 2-0. Suivant UKL Borobona, capitaine des Fauves de moins de 16 ans, au micro de notre correspondant Europe, Patrick Bongui.
Ce premier match, déjà, c'était notre première sélection ensemble. Un premier match qu'on a su très bien entamer, mais malgré la défaite, ce match-là signifie un match d'apprentissage. Et on est très fiers de ce qu'on a pu montrer, même si on sait qu'on peut encore mieux faire et beaucoup plus progresser, que ce soit devant le but et défensivement. Mais sinon, on est très fiers de ce qu'on a pu montrer. On va essayer de régler un peu les problèmes qu'on a pu avoir contre la Belgique pour pouvoir aller chercher une victoire contre l'Angleterre. On connaît nos jeux, on connaît nos joueurs, et on sait que si on met tous les ingrédients pour pouvoir y arriver, je pense qu'on sortirait avec une bonne place dans ce groupe.
Bruce Abdoulaye, sélectionneur des Fauves U16 que nous avons contacté, explique les raisons de cette première défaite face à la Belgique.
On a les 4 plus grosses premières occasions sur la première mi-temps et malheureusement, par manque de justesse technique dans le dernier geste, on n'a pas su concrétiser ce but qui aurait pu changer la donne du match. En deuxième mi-temps, ils ont accéléré, ils nous ont mis un peu plus en difficulté sur la gestion de l'interligne où ils ont trouvé des joueurs dans des zones où on n'a pas su s'adapter. Et sur le premier but, malheureusement, c'est un garçon qui a été dans une bonne zone. Et le talent individuel a fait la différence sur le premier but. Après, le deuxième but, il est anecdotique puisqu'on avait continué quand même à attaquer en passant sur un système différent à deux devant. On n'a pas su anticiper la gestion des interlignes encore une deuxième fois. Donc je dirais que c'est un match intéressant dans l'apprentissage. J'ai rien à reprocher à mes garçons. En tout cas, sur ce qu'on a voulu faire, on l'a fait. Maintenant, la différence entre les petites nations et les grandes nations, c'est le talent. Ils avaient des garçons de talent qui ont su faire la différence individuellement et nous priver de cette première victoire.
C'était Bruce Abdoulaye, sélectionneur des Fauves U16. Les autres matchs hier dans la poule de la République centrafricaine. L'Angleterre s'est imposée devant la Nouvelle-Calédonie 2-0. La France, de son côté, a largement dominé la Guinée-Conakry 5-2. Le Danemark a humilié l'Arabie Saoudite 7-0. La Roumanie et la Côte d'Ivoire ont fait match nul, un but partout. Le Portugal et le Japon se sont également séparés sur un score de parité 0 but partout. Demain à 18h15, l'Angleterre affrontera la République centrafricaine. centrafricaine pour son deuxième match. Et jeudi, toujours à la même heure, la République centrafricaine jouera contre la Nouvelle-Calédonie.
Claire, revenons au pays, précisément à Boussangoua dans l'Ouham, pour parler du basketball avec le démarrage aujourd'hui du mini-camp de basketball.
Effectivement, une activité organisée par l'école de basketball Académie aussi en déplacement dans la localité. Ce mini-camp qui concerne les jeunes filles et garçons de 5 à 18 ans prend fin le 7 avril. Le camp va se dérouler sur le terrain de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue.
Ainsi prend fin ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir écouté. Tout de suite la version en langue nationale.